On va parler d'un des noms de l'Éternel. Dimanche passé, je vous ai enseigné sur le thème « Les noms de Dieu ». Et on va lire un passage dans le livre de Psaume. Psaume, chapitre 9. Le psaume chapitre 9, le verset 10 nous dit ceci. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Amen. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Amen. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Amen. Il dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, et après il dit, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Amen. Donc ici, nous allons comprendre que, en réalité, celui qui connaît le nom de l'Éternel, c'est qu'il cherche l'Éternel. Amen. Parce que tu ne peux pas connaître le nom de l'Éternel sans le chercher. Pour pouvoir trouver le nom, il faut le chercher. La Bible dit que celui qui cherche, trouve. Amen. Et donc, celui qui connaît le nom de l'Éternel, c'est qu'il a fait un effort pour pouvoir chercher le nom de l'Éternel. Amen. Il a fait un effort parce que même aujourd'hui, on va parler des noms de Dieu. Ne pensez pas que c'est un effort de mémorisation. Non. Mais je vous ai dit que c'est plus une expérience. Il faut qu'on aille comprendre véritablement la racine du nom qui a été révélé, parce que chaque nom qui est révélé est une alliance que Dieu fait avec l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et donc, trouver l'essence, c'est trouver la base de l'alliance. Et lorsque tu fais appel à Dieu et que tu évoques ce nom de l'Éternel, il est obligé de répondre. Est-ce que tu me comprends? Il est obligé de répondre. C'est pour ça qu'il dit au verset 11 du psaume 9, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Ceux qui connaissent ton nom, le nom que tu as révélé se confie véritablement dans la nature, se confie dans le caractère, se confie dans la personne que tu as révélée. Alléluia. Et ensuite il dit, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Demande à ton voisin, est-ce que tu cherches l'Éternel? Alléluia. Est-ce que tu cherches l'Éternel? Est-ce que tu fais partie véritablement des personnes qui ne donnent pas de repos à leur âme tant qu'ils n'ont pas connu plus de Dieu? Alléluia. Tant qu'ils n'ont pas véritablement exploré les facettes de Dieu. Chaque jour que Dieu fait, je veux le connaître davantage. Chaque jour que Dieu fait, je veux comprendre une facette de son caractère, une facette de sa personne. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Parce que dès le moment où tu résous dans ton cœur, tu dis dans ton cœur, je suis résolu à chercher l'Éternel, tout de suite, tu es signalé au niveau du protocole, au niveau du ciel. Tout de suite, on dit, ah, il y en a un autre qui te cherche. Alléluia. Fais-tu partie de ceux qui cherchent l'Éternel? Parce que la Bible dit que l'Éternel lui-même s'est caché. Il a mis dans le cœur de l'homme le désir de le chercher. Alléluia. Et ce n'est pas tout le monde qui cherche Dieu. Nous sommes plus près de 7 milliards d'hommes sur la terre. Mais ces 7 milliards d'hommes ne cherchent pas Dieu. Les hommes qui cherchent Dieu se comptent. Ils peuvent se compter. Même dans une grande nation comme la France, tout le monde ne cherche pas l'Éternel. Il y a beaucoup de choses qu'on cherche. On cherche du travail. On cherche une maison. On cherche une reconnaissance nationale. On cherche le pouvoir. On cherche une promotion. Il y a beaucoup de choses qu'on cherche. On cherche un mari. Ou on cherche une femme. On cherche un appareil qu'on pense qui va nous procurer du plaisir. On cherche la joie, on cherche la paix, on cherche beaucoup de choses. Mais toutes ces choses qu'on cherche, en fait, sont des fruits. Mais la racine, la source, c'est l'Éternel. Et c'est plus sage pour l'homme de chercher la source de la joie, la source de la paix, la source de la prospérité, la source du bonheur, la source de l'équilibre, la source de la force, qui est l'Éternel des armées, que de chercher toutes ces choses. On ne va pas au marché, on va à la rencontre de l'Éternel. C'est pour ça qu'il dit que personne, il dit, si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut lui être agréable. Car il faut que ceux qui le cherchent, un d'abord, croient qu'il existe, et deux, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc en réalité, qu'est-ce qu'il te demande? C'est de le chercher, de ne pas renoncer à toutes ces choses-là. Parce que c'est lui qui a mis en toi le désir de prospérer, le désir de vivre dans la paix, le désir de vivre dans le bonheur. C'est lui-même qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Donc toutes ces choses-là, il sait que tu en as besoin. Et il a fait il a pris l'engagement de pourvoir à tous tes besoins. Alléluia. Il a pris cet engagement de pourvoir à tous tes besoins. Mais il veut que tu le cherches. Et lui, il va te donner ce que tu cherches. Ces autres choses-là. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça qu'il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous donner. Amen. Le nom, vous savez, le nom Jéhovah ou le nom Yahvé est directement lié à sept noms ou titres spécifiques dans la Bible. Sept aspects de sa fidélité. Il y a le premier qui est celui qui pourvoit, Jéhovah Jiré. Amen. Il y a ensuite celui qui guérit, celui qui est notre bannière, celui qui est notre paix, Jéhovah Shalom, celui qui est notre berger, alléluia, celui qui est notre justice et celui qui est là ou bien présent en permanence. Amen. Chacun de ces noms est une facette, un aspect que Dieu a révélé qui tire son essence dans son caractère. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu ne comprends pas la signification réelle de ce nom, il te sera difficile de pouvoir faire appel à Dieu. Est-ce que tu comprends? Parce que connaître le nom de Dieu, c'est connaître Dieu. Amen. Je vous ai expliqué un peu la nuance. C'est-à-dire que quand vous ne connaissez pas le nom de quelqu'un, c'est que vous ne le connaissez pas du tout. Mais vous pouvez connaître son nom sans le connaître en réalité. Mais il faut d'abord au moins connaître son nom. Donc, il faut commencer la démarche d'abord par connaître son nom. Amen. Donc, je connais son nom. Et maintenant, avec ce nom, parce que en hébreu, chaque nom a une signification. Et la signification du nom vous indique un aspect du caractère de la personne. Alléluia. Et donc, connaître le nom de Dieu avec son caractère vous permet de savoir à quel Dieu vous avez affaire. Amen. Et ce qu'il est en train de faire. Celui qui pourvoit. C'est le premier nom que nous allons étudier. Jéhovah Jiré. Amen. Jéhovah Jiré. Je voudrais quand même lire un passage dans le livre de Proverbes avant de continuer. Proverbes chapitre 18, verset 10. Proverbes chapitre 18, verset 10. La Bible nous dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Alléluia. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Ce n'est pas tout le monde qui se réfugie là-bas. Alléluia. Donc ce que je suis en train d'enseigner, certaines personnes me voient à travers leur écran de télévision. D'autres sont sur Internet. D'autres l'entendent sur Internet. Certains ont reçu le CD. Amen. Et même vous êtes assis juste en face de moi, mais sachez quelque chose. Ce n'est pas n'importe qui trouve un refuge dans le nom de l'Éternel. Il faut avoir d'abord une première qualification, c'est celle d'être juste. Or, est juste celui qui a accepté le Seigneur de justice, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, comme son Seigneur et Sauveur personnel, comme quelqu'un à qui il a confié sa vie, amen, et qui a décidé véritablement de marcher en conformité avec la parole de Dieu qui est la Bible, pas un autre livre. À partir de ce moment, cette personne est juste. Et cette personne prend l'engagement et a le désir de chercher l'Éternel et de le connaître. Et il commence maintenant à avoir la révélation des noms de Dieu. Et lorsqu'il fait appel à un nom, alléluia, lorsqu'il fait appel à un nom, c'est comme s'il se réfugie derrière ce nom et il se trouve en sûreté. Vous savez, le mot traduit par pourvoir en hébreu signifie littéralement voir. En réalité, Jireh veut dire voir. L'Éternel, quand tu dis Jéhovah Jireh, tu dis l'Éternel voit. Alléluia. C'est le premier engagement dans la vie, dans ta vie. Amen. Et il va pourvoir. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi Dieu va pourvoir? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu va pourvoir? Parce qu'il voit. L'Éternel voit. Il n'y a rien qui t'arrive que l'Éternel ne voit pas. Et non seulement il le voit, mais il le voit au moment où ça arrive. Ce n'est pas à 18h quand il rentre fatigué du travail qu'on lui donne la liste des choses qui devraient attirer son attention. Mais au moment où l'événement se produit, Dieu voit. Alléluia. L'Éternel voit que tu es dans le besoin. L'Éternel voit ta situation. L'Éternel voit ton état. L'Éternel voit tout ce qui se passe dans ta vie. L'Éternel le voit. Amen. Et tu sais, il faut comprendre quelque chose. Il est difficile pour un homme de dire qu'il marche dans la foi s'il ne marche pas dans le repos de Dieu. Or, le repos, c'est quoi? C'est de savoir que Dieu voit. Dis à ton voisin, il voit. Alléluia. La définition du mot pourvoir dans le dictionnaire nous dit ceci. Pourvoir, c'est mettre quelqu'un en possession de ce qui lui est nécessaire ou utile. Alléluia. C'est formidable. Mettre quelqu'un en possession de ce qui lui est nécessaire ou utile. Ça veut dire que ce qui n'est pas utile, il n'a aucun engagement vis-à-vis de ça. Amen. Ce qui n'était pas nécessaire, il n'a aucun engagement vis-à-vis de ça. Mais frère, laisse-moi te dire quelque chose. Si quelque chose t'est nécessaire ou si quelque chose t'est utile, l'Éternel a pris l'engagement de pourvoir à cela. Alléluia. C'est son engagement numéro un. Quand tu mets ta confiance en Dieu, quand tu rentres dans l'alliance avec Dieu, lorsque tu dis « Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur », tout de suite, il prend l'engagement de pourvoir à tout ce qui t'est nécessaire ou utile. Si aujourd'hui, tu n'as pas certaines choses, c'est parce qu'au moment présent, ça ne t'est pas nécessaire ou ça ne t'est pas utile. Peut-être que tu penses le contraire. Mais vous savez, même les enfants, un enfant, moi, je sais que mon fils, il a pratiquement 8 ans, il m'a déjà demandé un cellulaire. Mais est-ce que je lui ai donné un cellulaire? Je ne lui donne pas de cellulaire à 8 ans. Alléluia! Lui, il pense pour lui que ça lui sera utile. Moi, je pense que ça ne lui est pas utile. Il pense que c'est nécessaire, mais moi, je pense que ce n'est pas nécessaire. Et si je ne lui donne pas, ce n'est pas parce que je ne l'aime pas, mais c'est parce qu'au contraire, je l'aime. Alléluia. Donc, nous pouvons penser qu'à un certain moment de notre vie, quelque chose nous est nécessaire ou utile. Certaines personnes déterminent que c'est le moment maintenant de se marier. Mais Dieu dit, c'est pas le moment. Tu n'es pas encore prêt. Dieu dit, non, c'est le moment de commencer le ministère. Dieu dit, ce n'est pas le moment. Alléluia. Un homme de Dieu a dit une fois, l'amour, c'est de donner à quelqu'un ce dont il a besoin, pas ce qu'il veut. Et Dieu nous aime. Dieu t'aime. Et il te donne ce dont tu as besoin. De quoi avons-nous besoin? On a besoin de salut. Alléluia. Tu as besoin d'abord d'être sauvé. Tu as besoin que Dieu mette de l'ordre dans ta vie, qu'il change ton cœur. Tu as besoin que Dieu intervienne de manière surnaturelle pour pouvoir te qualifier pour son œuvre. Alléluia. Tu as besoin que Dieu vienne véritablement drainer les pensées de mal, les pensées négatives, les pensées mauvaises, pour pouvoir apporter la vie. Regardez un peu, on va essayer de voir un peu à travers la Bible comment Dieu a pourvu à certaines choses. Regarde dans le livre de Genèse. Juste après que l'homme ait chuté, juste après que l'homme ait chuté, C'est dans le livre de Genèse, chapitre 3. La Bible dit au verset 7, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Amen. Donc, verset 7 du livre de Genèse 3, la Bible dit que l'homme, après avoir commis le péché, qui est de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et je vous dis, ce n'est pas l'arbre de la capacité de faire le bien et de ne pas faire le mal, mais c'est l'arbre de la connaissance, ça ne nous avance pas. Tu sais que ce que tu fais est mal, mais tu fais quand même. Ça ne t'avance pas. Donc l'homme se retrouve dans une situation, il prend conscience de son état. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher des feuilles de figuier. Et il utilise ça maintenant pour pouvoir cacher sa nudité. Il cache sa nudité. Donc je suppose que l'homme en mettait devant lui et derrière, la femme aussi. Donc maintenant il se promenait avec des feuilles de figuier devant et derrière. Et maintenant la Bible dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc, comme ils se sentent nus, lorsqu'ils entendent Dieu arriver, au lieu d'aller naturellement vers lui, amen, ils ont peur, ils vont se cacher derrière des arbres. Donc, ils sont cachés derrière l'arbre, et puis ils commencent maintenant à guetter, à regarder, où est Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et donc, Dieu leur parle, et il leur dit, mais, où es-tu? Et Adam qui répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et après toute cette histoire, la Bible dit que l'Éternel fit quoi? Il prit un agneau dont il a arraché la peau, amen, et il a remis cette peau-là à l'homme afin que l'homme puisse cacher sa nudité. Donc, pour la première fois, l'Éternel pourvoit au besoin de l'homme de pouvoir cacher sa nudité. Tu comprends? Quand Dieu révèle un nom, il ne le révèle pas, c'est pas un nom, si tu veux, comme ça, par fantaisie, non. Mais c'est un nom qui est basé sur une alliance. Et Dieu est en train de montrer à l'homme que ce dont tu as besoin, ce qui va te permettre de pouvoir vivre en paix avec toi-même, ce qui va te permettre de pouvoir avoir l'équilibre, de pouvoir avoir la santé spirituelle, de pouvoir marcher dans la confiance, dans la foi, ce dont tu as besoin, ce n'est pas toi qui vas te les procurer. Parce que toi, tu ne peux atteindre que les feuilles. Et tout ce que tu peux mettre devant toi, c'est des feuilles. Donc chaque matin, tu dois aller cueillir des feuilles pour pouvoir les mettre devant toi pour essayer de cacher ta nudité. Et quand tu as des feuilles autour de tes reins, à quoi tu ressembles? Mais moi, l'Éternel, c'est moi qui vais pourvoir à ton salut. C'est moi qui vais te donner ce dont tu as besoin pour pouvoir sortir de l'état dans lequel tu te trouves. C'est moi qui vais te donner l'agneau qui ôte le péché du monde. Et donc déjà depuis le jardin d'Éden, depuis la chute de l'homme, Dieu montrait à l'humanité qu'il allait pourvoir à tous ses besoins selon ses richesses avec gloire. Maintenant nous arrivons à un monsieur qui s'appelle Abraham. Abraham est le premier homme qui a connu Dieu. Le premier homme qui a accepté de faire confiance à Dieu. Le premier homme qui a donné sa dîme. Le premier homme qui a fait des offrandes. Le premier homme qui a véritablement fait ce qu'on appelle même une prière enregistrée. C'est le premier homme qui a intercédé lorsqu'il intercédait pour Sodome et Gomorre. C'est le premier homme qui a expérimenté véritablement des miracles extraordinaires de la part de Dieu. Abraham est celui qu'on appelle le père de la foi, le pionnier. Et à Abraham encore, Dieu allait lui montrer quelque chose. Et c'est à ce Abraham-là que Dieu a révélé ce nom. Je suis Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Parce que je vois. Alléluia. À 130 ans, après plein de péripéties, vous pouvez avoir plus d'enseignements donc sur la vie d'Abraham, dans le Dieu d'Abraham. Amen. Qui est un coffret dans lequel il y a près de 4 enseignements sur la vie d'Abraham. Donc, je ne vais pas revenir encore sur certains détails. Vous vous procurez ça, alléluia, et puis vous étudiez sur près de 4 heures, 5 heures d'enseignement la vie d'Abraham. Et Abraham arrive donc à l'âge de 130 ans. Parce que lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, en réalité, il avait 130 ans. Et Isaac avait donc, si Abraham a 130 ans, Isaac a combien d'années? Ouais, puisqu'il a eu à 100 ans. Ça, c'est facile. Donc Isaac avait 30 ans. Imaginez un monsieur de 30 ans en face d'un monsieur de 130 ans. Mon frère, si lui-même de 30 ans, il n'a pas décidé de se laisser pour que toi tu puisses le sacrifier, il est impossible pour toi de pouvoir le sacrifier. C'est pas possible. Surtout qu'à un moment, lorsqu'il montait sur la montagne, Abraham a dit à ses deux serviteurs qui étaient avec lui, attendez-moi là, je reviens. Et les gens lui ont dit, mais tu reviens comment? Il dit, de la même manière que je suis parti. C'est-à-dire, ils étaient deux. C'est comme ça, je vais revenir. Donc, Abraham lui-même, quelque part, savait qu'il allait revenir avec Isaac. Il savait. Quand bien même Dieu lui a demandé d'aller le sacrifier. Et vous savez qu'Abraham a parcouru 80 kilomètres entre chez lui et la montagne de Moridia, là où il devait aller faire le sacrifice. C'est un voyage qui a duré 3 jours. Et au moment où il a dit à Isaac, lève-toi, on s'en va à Moridia, dans son cœur, Isaac était déjà mort. 3 jours. Et il le retrouve après. C'était comme une résurrection. Vous savez, cette histoire est un type. C'est un type de Christ, de Dieu, du sacrifice de Christ à la croix. Pourquoi? Abraham est un type du Père. Il représente le Père. Isaac est un type du Fils. Alléluia. Puisque c'est le Fils. Son nom signifie rire. Il a apporté beaucoup de joie à son Père. Il est arrivé à un moment où son Père était déjà fort avancé en âge. Il avait déjà 100 ans. C'était un miracle. Et la Bible l'appelle le fils unique. Amen. Ensuite, vous avez le feu du sacrifice qui représente le Saint-Esprit, sans lequel aucun sacrifice n'est possible. Alléluia. Et vous avez le bois qu'Isaac lui-même portait. Parce que pour monter sur le sommet de la montagne, ce n'est pas Abraham qui portait le bois, c'est Isaac. Comme Jésus a porté la croix lorsqu'il allait sur le mont Golgotha. Alléluia. Et en plus de ça, et ce bois-là représente la croix sur laquelle Jésus a été crucifié. Pour dire quoi? Et c'est à ce moment-là, ce jour-là, que Abraham a la révélation du nom « Je suis l'Éternel qui pourvoit ». Au moment où ils sont en train de monter sur la montagne, Isaac pose une question à son père et dit « Mais où est l'agneau du sacrifice ?» Et Abraham répond. Parce qu'à ce moment, il était important qu'Abraham comprenne quelque chose. Que c'est vrai, on pouvait sacrifier des agneaux, des moutons, tout ça là, c'est bien. Mais Dieu est en train de lui expliquer que pour que l'humanité soit sauvée, il allait falloir sacrifier à un moment donné un homme. Pas un animal. Et pas n'importe quel homme. Un homme parfait. Un homme qui n'a point commis de péché. Alléluia. Et un homme qui allait être volontaire pour pouvoir donner sa vie. Un homme qui allait accepter de la déposer. Un peu comme Isaac. Isaac donnait sa vie. Quand Isaac s'est fait lier, ce n'est pas comme s'il était drogué, non. C'était en pleine connaissance de cause. Et Isaac était prêt à aller jusqu'au bout. Que Dieu le ressuscite ou pas, il était prêt à mourir. Et Abraham a montré sa foi dans le fait qu'il était totalement dans le repos de Dieu. Être dans le repos, c'est arrêter de combattre. Arrêter de faire des efforts inutiles. Mettre sa confiance en Dieu pour le moment qu'il a choisi pour te bénir. En sachant que Dieu t'aime et qu'il te bénira. Parce qu'il a pris cet engagement. Il a fait cette promesse. Je pourvoirai. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça en français d'aujourd'hui. Quand tu dis « Jéhovah Jireh », tu peux traduire comme ça « Dieu verra ». Et comme il va voir, il va veiller à y pouvoir. Alléluia. Et Dieu a pourvu. Les synonymes de pouvoir, c'est fournir, munir, procurer, approvisionner. Dieu dit « Le Seigneur m'approvisionne ». équipé. Le Seigneur m'équipe. Alléluia. Garnir, assurer. Le Seigneur m'assure. Il est mon assurance. Nantir, donner, parer, établir. Donc c'est Dieu qui fait toutes ces choses-là. L'homme ne s'établit pas lui-même, c'est Dieu qui l'établit. Alléluia. C'est Dieu qui lui donne l'assurance. C'est Dieu qui lui procure certaines choses dont il a besoin. Et il a pris cet engagement. Amen. Jésus est notre agneau. Jean le Baptiste a dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 29, « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » Amen. « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » Et Jean, chapitre 8, verset 32, on va prendre Jean, chapitre 8. Verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est plutôt un autre verset. Qui dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Je sais que c'est dans Jean 8. Bon, on va retrouver la référence, on va vous donner la référence tout à l'heure. Amen. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui qui était prêt véritablement à sacrifier Christ, à sacrifier son fils, lui qui n'a pas renoncé au fait de véritablement de nous donner ce qu'il avait de plus cher, ce qu'il chérissait, un peu à l'image d'Abraham, qui a connu un peu la souffrance que l'Éternel lui-même a pu ressentir lorsque il livrait Christ sur la croix. Amen. Et Abraham qui a pu comprendre qu'arrivé à un certain moment, l'humanité allait avoir besoin d'un sacrifice humain, allait avoir besoin du sacrifice de Christ à la croix. Amen. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Il t'a donné ce qu'il y a de plus grand. Il t'a donné la vie de son fils. Amen. Qu'est-ce qui peut te refuser? Qu'est-ce qui peut te refuser? Vous savez, des fois, nos marques d'impatience devant Dieu ressemble à des insultes. Il y a des gens qui sont assis dans l'église, mais qui sont les plus grands blasphémateurs, qui sont les personnes les plus méchantes à l'égard de Dieu. Ils ont un cœur noir, méchant, mesquin. Mieux vaut même, des fois, des gens qui sont à l'extérieur, qui ne sont même pas dans l'église, sont plus honnêtes vis-à-vis de Dieu que certaines personnes qui sont dans l'église. Parce que quand tu penses que Dieu veut ton mal, et que finalement tu n'as pas besoin de lui, mais tu vas te débrouiller de toi-même pour pouvoir avoir ce que tu penses, ce dont tu penses avoir besoin, c'est une manière de dire à Dieu, écoute, je n'ai pas confiance en toi. Laisse-moi, je vais gérer moi-même mes propres affaires. Pourtant tu t'assois à l'église, tu entends des prédications, mais tu as plus confiance en ta pensée humaine pour pouvoir régler tes problèmes, que tu n'as confiance en Dieu qui t'a donné la vie de son propre fils. Il t'a sacrifié la vie de son propre fils. Il a sacrifié pour toi. Par amour pour toi. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir te refuser? Qu'il te soit utile et qu'il te soit nécessaire. Je suis pressé. Je veux me marier maintenant. Je veux avoir des enfants maintenant. Je veux ceci maintenant. Mais attends, il y a des choses à avoir d'abord. Et si Dieu ne te les a pas encore donnés, c'est que le temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Et apprenons à vivre un peu dans le repos de Dieu. Vous savez, ce sont nos convoitises, nos désirs, nos pulsions charnelles qui nous mettent dans des problèmes et dans des situations de stress et de pression inutile. Quelqu'un qui vit dans le repos de Dieu ne fait pas de dépression. Quelqu'un qui vit dans le repos de Dieu n'est pas stressé. Quelqu'un qui vit dans le repos de Dieu, il vit dans l'assurance, dans la paix. Lorsqu'il est dans la paix à tout moment. Même s'il n'a pas de salaire, il est dans la paix. Alléluia. Même quand on lui dit, bon, tu dois quitter cette maison dans 2 semaines, il est dans la paix. Fais pas de cauchemars. Mais il y a des gens qui diraient que leur vie est une vie de stress. Je dois avoir un avancement. Je dois avoir cet avancement. Non, je dois avoir cet... L'avancement, là, c'est Dieu qui donne. La promotion ne vient ni de l'Est, ni du Sud, ni du Nord, ni de où tu veux. Mais ça vient de d'en haut. C'est l'Éternel. Il y a des gens, tu les vois, selon les expressions francophones, maintenant, ils sont zen. Le frère, il arrive au travail, il est zen. Tu le vois parler avec le patron, il est zen. Il est tout en zen. Et il a de l'avancement. Il a de la promotion. Toi, tu es là, tu es stressé. Quand tu arrives au travail, tu es tout le temps stressé. Tu es stressé pourquoi? C'était ça le problème d'Adam. Adam, où es-tu? Ah, Adam, qu'est-ce qui t'arrive? D'habitude, je descendais. Il n'y a pas de problème. On causait tranquillement. On passait du temps ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, du jour au lendemain, dès que je dis, mais où es-tu? Tu commences déjà à trembler. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal qui se passe dans ta vie. Mon frère, des fois, les songes sont des indicateurs de l'état de ta vie spirituelle. Quand quelqu'un fait trop de cauchemars, c'est qu'il y a un problème dans sa vie. Tu dors, ce sont les lions qui te poursuivent, les chiens qui te poursuivent. Tu marches pieds nus, tu es dans des haillons, tu as tout ça de problèmes. Il y a des gens qui viennent avoir des rapports avec toi. Ah, vraiment, c'est grave. C'est un indicateur pour te dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui est en train de se passer dans ta vie. Être dans le stress, ce n'est pas un état normal. Parce que le Seigneur a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai quoi? Du repos. Le repos, c'est ce que le Seigneur a promis lorsque tu viens à lui. Donc, si tu n'es pas dans le repos, c'est qu'il y a un problème. Dis à ton voisin, vis dans le repos. Paul, l'apôtre Paul, s'est fait l'écho de la signification du nom Jéhovah Jireh. Dans Philippiens chapitre 4, verset 19. Lorsqu'il a dit, et mon Dieu pourvoira, amen, à tous vos besoins, selon ses richesses, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Est-ce qu'il y a un besoin auquel Dieu ne pourvoira pas? Hein? Il a dit tout, mon frère. Est-ce qu'il y a un besoin auquel Dieu ne pourvoira pas? Tu ne me réponds pas? Je pose une question, tu ne me réponds pas. Alléluia. Est-ce qu'il y a un besoin auquel l'Éternel ne pourvoira pas? Ou bien il pourvoira à certains besoins? Non, vous savez, Dieu, il peut intervenir. Si je veux, par exemple, le don de la parole de connaissance, là, Dieu peut me donner. Mais si je veux être béni financièrement, non, Dieu ne peut pas pourvoir à ça. Ou bien, bon, Dieu, non, Dieu, il peut pourvoir peut-être à ma bénédiction financière, il peut pourvoir à un don de parole de connaissance, et puis même, si j'ai besoin, par exemple, de parler en langue, Dieu peut pourvoir, mais si j'ai besoin d'une bonne femme, Dieu ne peut pas pourvoir. Il faut que moi-même, j'aille la chercher. Une vraiment, quand tu la vois là même, vraiment, tu commences à trembler déjà. C'est ça qu'il me faut. Mais mon frère, va chercher ta femme avec tes yeux. Tu penses que tu es le seul? Il y a des choses que nous devons apprendre en tant qu'enfants de Dieu. La première chose, c'est de lui faire confiance. Et c'est pour ça qu'il prend cet engagement, qui est le premier. Bonjour, ça va? Oui, papa. Il dit, je suis l'Éternel qui pourvoit. Tu dois comprendre que ta marche avec Dieu ne commence que lorsque tu entres dans son repos. Lorsque tu comprends que c'est lui qui va pourvoir à tous tes besoins, selon ses richesses, avec gloire en Jésus-Christ. Tu avais besoin de salut. Tu avais besoin de sortir de ton péché. Tu avais besoin de sortir de ta situation. Tu avais besoin véritablement de pouvoir te détacher du monde. Tu avais besoin de sortir de l'Égypte. Tu avais besoin de mettre de l'ordre dans ta vie. Qui a pourvu à cela? Tu as tout essayé. Tu as fait comme Adam. Tu as commencé à couper les feuilles. Tu as dit, bon, peut-être les bouddhistes vont m'aider. Ça n'a pas marché. Tu as dit, non, il y a un gourou là-bas, là, je vais aller le voir. Ça n'a pas marché. Tu es allé chez le marabout, Seri Badja. Grand marabout venu de je ne sais pas, de Bamako. Tu es allé le voir, ça n'a pas marché. Même des fois dans ta recherche, tu as peut-être visité des églises. Toi seul, tu as déjà fait le tour d'au moins 7 ou 8 églises. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le pasteur qui pourvoit. Alléluia. Ce n'est pas le pasteur qui pourvoit. C'est l'Éternel qui pourvoit. Selon ses richesses, avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est l'Éternel qui a pourvu à ton salut. Personne n'est mort pour toi. Le pasteur n'est pas mort pour toi, mais Christ est mort pour toi. Et Dieu a pris l'engagement de pourvoir à tous tes besoins. Et à un moment, tu avais besoin de salut. Tu avais besoin de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Tu avais besoin d'avoir une expérience avec le Fils de Dieu. Et cette expérience-là, Dieu te l'a faite avoir. Et maintenant, il va pourvoir à tous tes besoins. Il va pourvoir à toutes tes situations. Il va pourvoir à tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Arrête de vivre dans le stress. Arrête de vivre dans l'incertitude. Parce que tu as une certitude. Dis à ton voisin, j'ai une certitude. Alléluia. Moi, en tout cas, j'ai une certitude. J'ai une certitude. J'ai une certaine peine, une certaine confiance. J'ai une certitude terrible. Vous savez, c'est quoi ma certitude? C'est que l'Éternel pourvoira à tous mes besoins. Voilà ma certitude. Amen. Voilà ma certitude. Matthieu chapitre 11, verset 28. Il dit encore dans Matthieu chapitre 11, verset 28. On va lire le verset 28 et le verset 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ensuite, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Amen. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Hébreux, chapitre 4, verset 3, toujours en parlant du repos, nous dit ceci. Hébreux. Chapitre 4, verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Amen. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Nous avons cru en quoi? Que l'Éternel pourvoira. Amen. Selon qu'il a dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Mais nous qui avons cru, nous entrons dans son repos. Aujourd'hui, tu dois entrer dans le repos de l'Éternel. Tu dois entrer dans le repos de l'Éternel. Tu dois arrêter d'avoir peur. Arrêter de douter. Arrêter de marcher dans la crainte. Arrêter de te dire que non, Dieu ne t'aime pas, Dieu t'aime. Il a fait pour toi le plus grand sacrifice. Il a donné la vie de son fils. il te donnera tout avec lui. Il n'y a rien qui ne peut te refuser maintenant. Sauf que il te donne ce qui t'est utile et ce qui t'est nécessaire. Ce qui t'est utile et ce qui t'est nécessaire. Tu sais, quelque chose qui t'est utile aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Et quelque chose qui te sera nécessaire demain ne l'est pas forcément aujourd'hui. Je vous prends un exemple bien simple. À tout moment dans la vie d'un homme, il lui est nécessaire d'avoir un coup de pouce, d'être aidé, d'être soutenu, de recevoir peut-être même une aide financière ou bien un don, un présent particulier qui lui permettra de pouvoir booster sa vie ou démarrer dans sa vie. Si cette personne-là la reçoit, disons que cette personne reçoit cette aide à 15 ans, alors qu'il est dans la jeunesse, dans l'euphorie. On vient, on lui apporte, je prends ça encore à titre d'exemple, une mallette avec 250 000 euros dedans. Il lui dit, tiens, ça c'est vraiment, c'est pour toi, c'est pour t'aider dans la vie. À 15 ans, mon frère. La première des choses qu'il va faire, entrer dans un magasin où on vend des motos ou des voitures. Après, il va aller entrer dans des magasins où il va pouvoir s'acheter des jeans, des chemises, des paires de chaussures, du parfum et tout ça. Il va aller faire le show au collège. Il va aller garer sa décapotable devant. Il va mettre la musique. Il va investir dans n'importe quoi. Est-ce que cet argent-là est nécessaire? Oui. Mais est-ce que c'est nécessaire à ce moment donné de sa vie? Non. En le lui donnant maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a détruit. On l'a gaspillé l'argent. On a fait du gâchis. Mais si cet argent, on attend qu'il finisse ses années de collège, qu'il aille à l'université, qu'il finisse un diplôme, qu'il commence même des fois même à travailler. Après 2 ans d'expérience dans une entreprise, il reçoit maintenant ce don-là, ce cadeau. D'après vous, qu'est-ce qu'il va en faire? Il peut investir, il va le placer. Il va peut-être s'acheter une maison et il va placer le reste de l'argent. Il va peut-être démarrer une entreprise qui va pouvoir fructifier et développer. Est-ce que ce n'est pas le même don? Oui. Mais ça intervient à 2 moments différents de sa vie et de son existence. Donc c'est des fois l'amour de Dieu qui fait que certaines choses qui doivent te parvenir ne te sont pas encore parvenues. Amen. Mais c'est ta confiance aussi et ta foi qui font que, quand bien même tu ne les as pas encore reçues, tu continues de croire que l'Éternel pourvoira à tous tes besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. On va se lever dans la présence de Dieu.